C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Avec un déficit de 11 milliards de dollars et donc de reporter dans le temps le retour à l'équilibre budgétaire, est-ce que le gouvernement a perdu le contrôle des finances publiques? Nathalie.
Non, la réponse, non. Il n'a pas perdu le contrôle des finances publiques et je vous explique pourquoi dans quelques instants, mais il faut quand même admettre que c'est difficile de donner une médaille d'or au gouvernement dans le contexte actuel. 11 milliards de dollars, là, c'est le déficit le plus important de l'histoire et c'est un déficit pour une année seulement. Là. C'est pour l'année qui s'en vient, 2024-2025. Le gouvernement joue au Père Noël et là, avec un déficit aussi élevé, bien, il devra gratter dans les fonds de tiroir. C'est une image, c'est l'image qui m'est venue en tête lorsque j'ai vu les résultats de ce déficit. Pourquoi là, on peut pas conclure que le gouvernement a perdu le contrôle des finances publiques. Un, parce qu'il a prévu une provision de 7,5 milliards au cours des cinq prochaines années. Une provision qui va lui permettre de réajuster le tir si jamais les prévisions de croissance sur le plan économique ne sont pas au rendez-vous. Les cibles de la réduction de la dette, deuxièmement, sont maintenues malgré un rythme plus lent des remboursements. Puis troisièmement, le versement au fonds des générations vont se poursuivre. Le gouvernement a démontré là, qu'il a un début de plan avec l'optimisation, c'est le nouveau mot à la mode au gouvernement, là, de certains programmes, on fait le ménage de certains programmes. On demande également aux sociétés d'État, aux entreprises qui appartiennent au gouvernement, de se serrer la ceinture. Mais plus fondamental que ça encore, et pour moi, c'est extrêmement rassurant, les 6 agences de notation qui évaluent la cote de crédit ou les cotes de crédit du Québec ont donné la même note au Québec le 23 février dernier que le 1er mars 2023. Donc, ça veut donc dire que, et ces perspectives là, pour les 6 agences de notation sont stables. Alors ça veut donc dire que le gouvernement a réussi, malgré son défi, à convaincre les agences de notation que son plan, il est crédible. C'est un plan qui a rassuré les agences de notation. Donc, notre capacité d'emprunt va demeurer intacte. Ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle.
Ouais. C'est bon, ça, Nathalie?
Et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Mais moi, je vais faire une comparaison. Pour comprendre le budget, là, une couple de noms. Jason Kenney, Doug Ford, Bob Rae, Bernard Landry. C'est un mélange de tout ça. Jason Kenney arrive en 2018 au budget, puis les prix du pétrole tombent, fait qu'il laisse monter le déficit. Il est chanceux, le prix du pétrole se rétablit. Lui, l'argent rentre à coût 300 millions de dollars par mois et il réussit à rétablir le déficit. Ça, c'est Jason Kenney, c'est la stratégie du gouvernement. On fait un déficit, à un moment donné, l'économie va aller mieux, il va se résorber. Jason Kenney. Doug Ford fait la même chose la même année. Il compte sur la grosse machine ontarienne de croissance pour venir combler le déficit. Mais c'est pas ça qui se passe à cause de la pandémie, 2 ans plus tard. Fait que là, il est pris pour faire des méchantes grosses coupures un peu plus tard. Donc, dans un premier temps, il dit, c'est pas vrai, je vais faire un gros conservateur de moi-même. Puis il décide qu'il va laisser le déficit croître plutôt que de couper dans les services. 2 ans plus tard, la pandémie, il augmente encore son déficit. Puis là, après ça, il est obligé de couper en masse d'un déficit. Est-ce que le budget de M. Legault, parce que c'est pas le budget de Girard, c'est le budget de Legault, Girard, il n'aurait jamais proposé un budget à 11 milliards de déficit. Est-ce qu'il va ressembler à celui de Jason Kenney ou Doug Ford? Personne ne le sait. Pourquoi je parlerais aussi de Bob Rae? Bob Rae, 1991, fait 11 milliards de dollars de déficit. En 91, c'était gigantissimique. Pourquoi il a fait 11 milliards de dollars de déficit? Il a augmenté les salaires. Il a augmenté les salaires, puis il n'y avait aucune contrepartie en vue. Il ne savait pas s'il allait avoir une croissance économique, puis si l'augmentation des salaires allait permettre de régler le problème. Il a fait un déficit juste en augmentant les salaires. Ça nous fait penser beaucoup aux 3 milliards qu'on vient de mettre par année minimum dans les conventions collectives. Bernard Landry était obsédé par l'idée de changer l'économie du Québec. Il disait, faut qu'on passe d'une économie industrielle à une économie des technologies d'information. Legault est obsédé par le contraire. Il veut passer d'une économie des technologies d'information à une économie industrielle. Pourquoi? Parce que l'économie industrielle, elle va se faire dans les régions. Fait qu'il augmente encore, même si on est en gros déficit. Puis même si dans les années passées, il a mis des milliards, il augmente encore de 300 millions sa patente de batterie verte. Donc, lui, c'est une obsession. Alors, bon, ça dit quoi? Ça dit que c'est tellement atypique comme budget, c'est que ça pige à droite, ça pige à gauche, ça pige dans la social-démocratie constructive, mais on comprend pas, parce qu'il prend un peu partout, c'est du grand Legault, c'est pragmatique, c'est je prends telle mesure que tel gars a fait, je prends telle mesure que tel gars, puis ça donne un résultat. Maintenant, est-ce que c'est risqué? Bah, moi, Nathalie, je suis pas d'accord avec toi, c'est extrêmement risqué, parce que lui, il compte sur une augmentation des revenus de 4% dans les prochaines années, après l'année actuelle, puis une diminution des dépenses. Un instant. L'augmentation des revenus, là, il dit, comment ça va se produire? Ça va se produire parce qu'il va y avoir une baisse des taux d'intérêt. parce qu'il va y avoir une baisse de l'inflation. Ben, je m'excuse, l'inflation a augmenté l'an passé, hier. L'inflation a augmenté hier aux États-Unis, alors qu'ils ont maintenu de façon très obstinée leur taux d'intérêt à 5,5%. Fait, la baisse de l'inflation puis la hausse puis des taux d'intérêt, c'est loin d'être garanti. Fait que ça, c'est sa première proposition. Puis il dit, on va baisser les dépenses. Ha, 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 ha. Penses-tu vraiment qu'en 2025, l'année avant les élections, il va couper dans les dépenses alors qu'il n'est pas capable de le faire en 2024? Ben voyons donc.
Ben, premièrement, j'ai jamais dit que c'est un budget qui n'était pas risqué. J'ai dit que c'est un, on peut pas conclure qu'au gouvernement risqué. Perdu. Non, tu as dit que c'est, non, j'ai pas dit que c'était risqué pour le ministre.
Non,
c'est la stratégie qu'il déploie.
Okay.
Ce que j'ai dit, par contre, c'est qu'on peut pas conclure qu'il a perdu le contrôle des finances publiques. Il mise sur le plan économique, tu l'as dit, sur une reprise de l'économie. Actuellement, on a un taux de croissance, cette année, c'est prévu 0,6, puis l'année prochaine, on prévoit 1,6. Est-ce que ce sera suffisant uniquement un taux de croissance qui est toute chose étant relative, on pourrait le qualifier de famélique, mais tout de même, il y aura une reprise que le ministre anticipe à l'horizon. Est-ce que ce sera suffisant? La réponse, c'est non. C'est pour ça qu'il compte beaucoup sur une augmentation des revenus du fédéral. Il a, à ton micro ce matin, il a déploré le fait que le fédéral crée des programmes, crée des nouveaux besoins. Alors, il dit, il ne faut pas créer de nouveaux programmes, puis si on en crée, bien, ça prend des mesures de compensation. L'autre chose, il mise sur une diminution des taux, mais ça, encore une fois, il y a plusieurs institutions financières qui prévoient une diminution des taux, mais jusqu'à quel point ça va jouer dans l'économie. Ce qui est un déplorable, c'est qu'on n'a pas vraiment de stratégie sur le plan économique pour relancer l'économie. Sur le plan du logement, tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'il va y avoir une faible reprise des mises en chantier. On va passer de mises en chantier de un peu plus de 39 000 à un peu plus de 40, autour de 40 quelques mille. Ça, c'est pas suffisant, on s'entend. Mais fondamentalement, les deux prochaines années vont être extrêmement difficiles. Quand le ministre t'a dit tantôt, Paul, que les revenus sont pas au rendez-vous, ben il a raison. Parce que tu vois, pour la prochaine, en fait, les dépenses sont plus importantes que les revenus, mais c'est pas compliqué à comprendre.
Je vais citer un ancien ministre des Finances.
Oui.
Qui m'a dit un jour, tu sais, les revenus sont pas toujours au rendez-vous, mais les dépenses sont toujours au rendez-vous.
Ah, ça, c'est sûr.
C'est qui, ça?
C'est Bernard Landry.
Ah, ouais, c'est ça.
Oui.
C'est bon.
Il m'avait dit ça parce que il dit, tu sais, prends l'exemple de la santé. On sait tous, là, plus on avance, qu'il y a un vieillissement de la population, une facture qui va être plus élevée. Personne fait le débat au Québec, c'est est-ce que c'est encore assurable? Est-ce qu'on doit encore couvrir ça? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce qu'on a les moyens? Non. Nous autres, on dit, pas grave, on met un milliard là-dedans, puis ça va finir par s'arranger.
Ben, moi, c'est pour ça que je comparais avec Bob Ray. On va voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Mais Nathalie, moi, tu es tellement surpris de ta réaction un matin. Toi, là, t'as pris un bon petit rum and coke, quelque chose, d'être bonne humeur de même. Je me dis, ça se peut pas. Je pensais que t'allais faire le bacon à terre. Écoute, au Québec, il y a eu une espèce de consensus depuis Lucien Bouchard jusqu'à hier, en passant par Jean Charest, en passant par Couillard, en passant par Parizeau aussi à une certaine époque. Marois, etc., où on disait on doit contrôler le déficit. Il y a une affaire qu'on doit faire dans la vie, là, c'est contrôler le déficit parce que...
Il y a même une loi qui est adoptée.
Il y a une loi. Déchirer la loi. La loi dit t'as pas le droit de faire des déficits pendant plus que... La loi sur le déséquilibre des finances, là. Pas le droit de faire des déficits pendant plus que 5 ans. Pendant la pandémie, on met la loi de côté, d'accord. Après la pandémie, ils décident de reporter pour un autre 5 ans en se disant, pas grave, un jour, ça va remonter. Mais ça, c'est le contraire de ce que toute la société québécoise a construit comme consensus.
Luc, j'ai pas donné de tape dans le dos au gouvernement. Au contraire, là, j'ai dit c'est le déficit le plus important de l'histoire. Et lorsque, puis c'est un gouvernement extrêmement dépensier, parce que lorsque le ministre des Finances dit le gouvernement de Philippe Couillard nous a laissé 4 milliards de marge de manœuvre, c'est faux. Si vous regardez compte public, le gouvernement de la CAQ a hérité de 7 milliards.
Oui.
7,7
oui, oui.
milliards de surplus. Tout cet argent-là a été dépensé, puis là, on se retrouve à composer avec un déficit structurel, parce qu'au-delà du déficit, dans le déficit de 11 milliards, il y a 4 milliards de dollars qui revient constamment jusqu'en 27-28. Alors, on est dans le gros trouble, on est dans la MERDE, les amis, ça c'est sûr. Mais le gouvernement choisit, quand tu parles de stratégie
atypique... Tu dis qu'il a marché sur une ligne fine.
Non, quand tu dis que c'est une stratégie atypique, Luc, je suis plus ou moins d'accord parce que il a décidé, le gouvernement, de centrer ses dépenses sur la santé et l'éducation. Pourquoi?
Ça, c'est
parce qu'il a promis au gouvernement, à la population, des réformes en santé et en éducation, puis Puis, il va pas aller en élection sans que s'il y a eu des résultats positifs.
On peut-tu en parler au prochain bloc de ça, parce que je trouve que c'est majeur.
OK, on va en parler parce que le prochain bloc, ce seront les bons et les moins bons coups. On retrouve dans le budget.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, allons-y avec les bons et les moins bons coups qu'on retrouve dans le budget présenté hier. Luc?
Ben, Nathalie a un peu introduit le bon coup du budget. Faut voir que Legault, dans les dernières années, là, depuis le gouvernement caquiste, a augmenté les dépenses en éducation et en santé. Je pense que c'est 6,6, 7,6, les deux, là, par année. Donc, c'est vraiment... Puis là, il va continuer de les augmenter malgré le déficit, malgré la décroissance prévue des revenus. Il continue. Donc, lui, c'est vraiment sa signature. Moi, je m'occupe de l'éducation, puis je m'occupe des hôpitaux. C'est pas mauvais. C'est pas tout dans la batterie, là. C'est pas tout dans Northvolt. L'autre affaire, par contre, c'est qu'il a l'air tellement de se foutre du reste que c'en est incroyable. Moi, j'arrive pas à comprendre. Autant j'arrive pas à comprendre qu'il a balancé du revers de la main toute la stratégie de déficit zéro, comme il avait balancé d'ailleurs la régie d'énergie. Sur la fixation des tarifs à Hydro-Québec. Moi, cette affaire-là, je n'ai pas de besoin. Pickling, pickling, c'est terminé. Wow! Un monarque. Et là où il agit en monarque aussi, c'est que lui, il dit, moi, je me concentre, éducation, santé, le reste, manger de la M. Hey, les agriculteurs, là, ils ont une diminution de leurs revenus de 75% cette année à cause des changements climatiques, entre autres, à cause aussi de l'augmentation des prix du pétrole puis l'augmentation de l'inflation parce que eux autres, ils sont à côté d'un dette parce que tous leurs équipements agricoles, maintenant, ça coûte très cher. Ils ont une baisse énorme de leurs revenus, rien sur l'agriculture. Le logement, c'est un poème. Hey, l'augmentation du coût des logements, là, moyenne d'augmentation du coût des logements, 10% au Québec. À Montréal, l'ensemble des logements autour de 7,6%, un nouveau logement, c'est-à-dire un logement qui change de propriétaire, pas un nouveau, un logement qui sent 18% d'augmentation. L'augmentation du coût des logements, là, va bouffer tous les gains qui ont été proposés sous forme de baisse des impôts, les 2 points de baisse d'impôts d'une part, et tout autre gain qui aurait été donné, comme par exemple les allocations familiales du fédéral, les crédits d'impôt pour les personnes âgées. Ça bouffe tout ça, puis il s'en fout. Il laisse passer ça. Pas une scène pour le logement. Ça me tue de voir ça. Il est en train de modifier complètement la sociologie de la ville de Montréal en se disant, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?
Et pour le logement, il y a quand même la rénovation des HLM, Luc, il faut le dire. Dans les bons coups, privilégier la santé et l'éducation, oui, mais il y a beaucoup de sceptiques dans la salle. J'espère qu'on ne passera pas les 2-3 prochaines années à brasser du papier puis à virer structure à l'envers, parce que quand il y a beaucoup de sceptiques dans la salle, il y a aussi beaucoup d'écœurs en titre. Les Québécois sont écœurés, je vais vous le dire, je le dis comme je le pense. On sont écœurés de payer des impôts, d'envoyer ça dans le réseau de la santé et de l'éducation, puis il n'y a pas de résultats ou il y a peu de résultats qui sont perceptibles. C'est pas normal qu'on attendre encore des heures et des heures à l'urgence, puis qu'il y ait autant de défis dans le réseau de l'éducation. Alors, bon coup, mais avec de très, très grands défis. Dans les autres bons coups, les besoins en protection de la jeunesse. Il y a un gouvernement qui veut rehausser la capacité d'hébergement dans les centres de réadaptation. Il y a 543 millions sur 5 ans pour répondre à l'augmentation des besoins en protection de la jeunesse. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Une autre très, très bonne nouvelle, c'est les Invalides au front qui ont été entendus par le gouvernement. Le ministre des Finances hier disait, c'est la mesure dont je suis plus fier dans le budget. On vient corriger une injustice qui était vraiment flagrante. Alors, les personnes en situation d'invalidité là, vont pouvoir compter sur une rente qui ne sera pas coupée à 65 ans. Malheureusement, il y a d'autres citoyens qui considèrent qu'ils vivent aussi une injustice, qui n'ont pas été encore entendus. C'est ceux qui composent avec une indemnité de la CNESST. Également, les retraités de l'État qui composent avec une diminution importante de leur fonds de pension. La taxe sur le tabac, pour moi, ça fait partie des bons coups. Et également, je disais ça hier, pour les grands récalcitrants qui évitent de verser leur pension alimentaire, le gouvernement sort le bâton de baseball et il va se donner le moyen de saisir le permis de conduire. À ça, je disais ça hier, je me disais, waouh, ça, c'est comme fantastique. Fait que c'est une mesure qui vient protéger les femmes. Dans les mauvais coups, ben aucun plan, je le disais, pour relancer l'économie. Là-dessus, Luc, je te rejoins sur le plan du logement, parce que souvent, la construction résidentielle, c'est un moteur important de relance sur le plan économique. La croissance des mises en chantier sera famélique. Tantôt, je vous parlais de 40 000 d'unités. En fait, ce qui est prévu, c'est qu'on va passer de 38 900 nouvelles unités qui étaient construites. C'est-à-dire 38 900 unités en 2023 qui ont été construites à 42 700 unités en 2024. Et ça en prendrait 170 000 par année, imaginez, pour qu'on puisse arriver à résoudre le défi, la crise du logement.
Mais moi, Nathalie, justement, là-dessus, il y a un truc que je comprends pas. Il s'est fait proposer une diminution de la taxe de vente sur les logements. Il aurait pu cibler, mettons, les logements familiaux, abordables ou sociaux. Il a décidé de pas aller là. Pourquoi? Parce que s'il passe, là, tu as dit 38 000, 40 000 logements. Les meilleures années, c'est 60 000 logements. On devrait aller à 170 000. Si, en baissant la taxe, il y avait 20 000 logements de plus qui s'étaient construits, il aurait gagné son argent en impôts puis en profit des entreprises en claquant des doigts. Pourquoi il l'a pas fait? Je comprends
c'est
pas
une
ça.
Question. Ben, certains ont proposé la diminution de la TVQ, mais également, il y en a d'autres, dont Vincent, le monsieur qui est à la tête du groupe MAC,
qui a
proposé, lui, une diminution. Chiara, hein, c'est
Chiara,
ça?
Chiara, oui, Sacha.
Ouais. Le monsieur, il a proposé, lui, de réduire le taux d'intérêt, mettons, un taux préférentiel pour les promoteurs, les constructeurs dans l'immobilier. Ça, c'est demeuré lettre morte du côté du gouvernement. Alors, écoute, c'est une très bonne... Parce que, en fait, le ministre des Finances dit, pour relancer l'économie, on en a parlé précédemment, là, il dit, bon, ben le taux d'intérêt, le taux directeur va diminuer. Il y a une croissance qui est prévue, là, de, je disais tantôt, 1,6%. Puis l'autre chose, il dit, ben on va importer moins qu'on exporte. Donc, ils misent beaucoup sur les exportations qui vont quand même diminuer. Okay. Mais réjouissons-nous, on va exporter plus qu'on importe.
Oh,
alors,
oui.
Ça devrait être un moteur sur le plan économique.
Okay, attends une minute. Là-dessus, là, c'est un gros point. Là. Parce que, tu sais, quand on dit, on va mettre un comité pour savoir c'est quoi les réductions de dépenses fiscales puis de dépenses budgétaires. Puis on va... Premièrement, des comités, il y en a eu autant qu'il y a eu du coach canadien depuis 20 ans. Je veux dire, premièrement, c'est la première chose. La deuxième chose, on a deux étoiles, on a deux Cole Caulfield, nous autres, en fiscalité. Au Québec, Luc Godbout et Louis Lévesque. Ils sont extraordinaires. Puis, ils ont tous les deux proposé la même chose. Baisse les impôts, monte les taxes. Dans deux comités différents, un en 2021 puis un qui vient de déposer son rapport. Baisse les impôts, monte les taxes. Pourquoi? Parce que ça va baisser les importations. Parce que quand tu baisses les impôts, tu baisses la capacité d'acheter. Quand tu montes les taxes, tu baisses la...
Et ça
aura un impact direct sur les importations. Pourquoi il ne le fait pas?
Mais Luc, c'est pas populaire, les taxes. Voyons donc, là,
mais si tu baisses les impôts...
On privilégie la voie de la facilité.
Parce que
l'impôt,
c'est
taxe sur les cigarettes.
Une fois aux deux semaines sur ta paye. Les taxes, c'est tous les jours sur ta gueule.
Exactement. Puis le ministre tantôt des Finances t'a dit, Paul, on vient de diminuer les impôts. On va quand même pas augmenter les taxes.
Oui, mais c'était le temps de le faire. C'était le temps de le faire là. Quand tu as un déficit de 11 milliards, tu as une raison pour le faire. Tu dis, regarde,
je vais te dire, ça va être quand...
J'augmente mes salaires, j'augmente les dépenses en éducation et en santé. Je baisse mes impôts. En échange, je mets un point de taxe.
Ouais, mais je te fais une prédiction, Luc, parce que là, le gouvernement pèle en avant et le prochain gouvernement va être pris avec un méchant problème. Et là, les décisions difficiles, elles sont à venir, là, on s'entend. Là. Puis, dans la révision des programmes, on s'entend là, que la ministre, la présidente du Conseil du Trésor ne sera pas beaucoup d'amis cette année et l'année prochaine, là, parce que ça va faire très, très mal.
On s'arrête là-dessus. Juste vous dire que TVA annonce ce matin que l'ex-juge Jacques Delisle va plaider coupable. Je répète, va plaider coupable aujourd'hui. Alors qu'il nie être l'auteur du meurtre de sa femme, il a été en prison et la cause devait être débattue devant le tribunal. Et c'est la couronne qui a dit « on a une entente ». Il va plaider coupable à quoi? Je ne sais pas. Homicide involontaire, mais ils vont comme régler le dossier. Les détails vont suivre un peu plus tard dans la journée.
C'est 23.